Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Bonjour dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story, toujours avec Charles Magnin, Fred Hermel, Élise Goldfarb et Jacques Legros. Dans un instant, le zapping, le meilleur de l'actu sur RMC. On va parler de l'affaire Patrick Bruel. Est-ce que ceux qui savaient auraient dû parler avant? On va parler des aides pour les carburants. Est-ce que 710 millions d'euros, c'est assez? Et puis, comment bien réussir son vide-grenier? Vous êtes très nombreux à aller faire des vide-greniers et des brocantes ce week-end, on va tout vous dire. Dans un instant, il y aura également des débats encore dans Estelle Midi. 35 degrés ce week-end, est-ce inquiétant ou réjouissant? Vous êtes très nombreux à vous réjouir, mais quand même, on va peut-être s'inquiéter de ces températures. Et puis, la Pentecôte, personne ne sait si c'est vraiment férié ou pas, on n'y comprend rien. Est-ce qu'il faut remettre tout le monde au travail à la Pentecôte? On en parlera à 14h, puis il y aura RMC Santé également, Aurel Gage, qui va nous parler d'un problème très handicapant pour beaucoup de Français, ce sont les pellicules.
RMC, Estelle Midi,
le zapping RMC.
Et on démarre avec les GG ce matin sur RMC. L'affaire Patrick Bruel, tout le monde savait mais personne n'a parlé. Est-ce scandaleux? Au moins 10 plaintes ont été déposées contre le chanteur. Des chanteuses commencent à dénoncer son comportement. Et pour Laura Varton-Martinez, la sophrologue des GG, les artistes qui étaient au courant des agissements de Patrick Bruel auraient dû en parler avant.
Je voudrais m'adresser à toutes les personnalités publiques qui, là, nous disent avec sans aucune honte, mais on savait, c'était une notoriété publique. Là, moi, depuis que l'affaire sort, je rencontre des gens dans les médias, je rencontre des gens dans les couloirs, et on discute, et donc moi, je m'offusque, et on me dit, mais tout le monde savait.
Mais tout le monde savait quoi?
Bah, tout le monde savait que c'était un queutard, tout le monde savait que...
Ça, c'est pas un délit.
Tout le monde savait qu'il avait des tendances à vouloir avoir une domination certaine sur les femmes.
Et elle a raison de dire qu'on a beaucoup de « on savait ».
Voilà.
Lio et d'autres. Donc tous ces gens qui savaient, qu'ont-ils fait?
Oui, on peut savoir que quelqu'un est un queutard, comme dit Laura Varton-Martinez, mais un queutard, c'est pas un violeur. Donc en fait, voilà, ça, vous dites, Élise, comme Laura, bah, quand on sait qu'un homme est un peu, à l'époque, parce que c'est plus les mêmes mots aujourd'hui, mais on va dire lourd ou très dragueur, il faut le signaler?
Ben, moi, je pense que, là, on parle de Patrick Bruel, mais je veux dire, à ce jour, si demain il y a un MeToo qui sort sur un autre artiste, tout le monde va dire je savais aussi. Il y en a plein des histoires qui traînent,
c'est
bruits de couloir. Ce que je veux dire, c'est que en fait, pour moi, je sais pas si on peut publiquement prendre la parole pour une autre victime. C'est-à-dire, moi, je me suis déjà retrouvée dans un cas où j'ai vu des violences conjugales, je les ai dénoncées publiquement, et en fait, la victime m'a dit merci, mais c'est très violent pour moi parce que je suis pas prête à en parler. Et j'ai appris ça m'est arrivé il y a 10 ans. Et en fait, en appelant le 3919, même pour dénoncer ces violences conjugales, ce qu'on m'a dit au 3919, c'est il faut que ce soit la victime. C'est parfois plus violent pour la victime de le faire sans son accord, même si ça va la libérer quelque part. En fait, c'est un sujet qui est hyper épineux. Mais c'est vrai que tant que Flavie Flamand n'est pas prête à le dire,
mais oui,
il faut lui laisser le temps. La parole des victimes est plus importante que tout. Donc même si tout le monde est au courant, on peut décider en interne, en sachant de ne plus le mettre en avant. C'est-à-dire, en tant que journaliste au courant, imaginons, on peut dire, bah, moi, je veux pas l'inviter parce que j'ai entendu des trucs qui me plaisent pas.
Ça, on peut le faire.
Collectivement et à notre discrétion, on peut décider de dire, lui, c'est pas bien ce qu'il a fait et je le sais.
Un mot d'ordre,
je ne veux pas.
Entre femmes, on se prévient. Oui. Attention, un tel, il est lourd.
Voilà. Entre femmes, on va
oui,
se dire.
Oui, mais tu dis pas un tel est un violeur. Tu dis, attends, fais gaffe, celui-là, c'est un gros lourd. Bon.
Attention, c'est un violeur parce que j'avais entendu des histoires.
D'accord.
Je vais pas aller publiquement à la place de la victime porter une parole parce que je pense que ça peut.
Pardon, si je sais que quelqu'un était un violeur, je pense que je dirais quelque chose.
Non, mais je dirais voir la victime en lui disant « Porte plainte, on sera tous avec toi. Et je te soutiendrai, et je te crois, et ça va aller. » Mais moi...
Parce que le viol, c'est un crime. C'est notre devoir de dénoncer un viol. Mais encore une fois, là, quand on dit...
Moi, c'est notre devoir de dénoncer un viol à la justice.
Oui, mais
dans
quand
les
on
médias,
dit tout le monde savait, mais en fait, on savait rien. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est que, encore une fois...
Moi, ça faisait longtemps que j'entendais des trucs quand même.
Mais les mots... Oui, mais les mots ont un sens, encore une fois. Jacques Legros.
C'est compliqué parce que... On parle de viol, d'agression sexuelle. On pourrait parler plus globalement de harcèlement. Avant d'en parler, il faut déjà... rassembler beaucoup de courage. C'est pas facile comme tu le dis, hein, c'est pas facile du tout d'en parler. Ça paraît évident quand vu de l'extérieur, mais quand on est la personne concernée, ah oui. Il faut rassembler quand même beaucoup de courage, donc il faut un peu de temps. Et puis après, c'est une machine qui s'enclenche et qui décide d'autres personnes concernées, présumées à avoir été violées, etc. Parce qu'il faut faire attention, hein. Rien n'est jugé pour le moment, hein, un peu de prudence. Et qui vont suivre parce que elles vont se dire, bah, elle l'a fait, donc il faut que je le fasse. Mais tout ça est facile, c'est facile d'en parler, mais le vivre et le faire... c'est compliqué, comme pour tous les lanceurs et lanceuses d'alerte. Il faut un peu de temps avant de se dire allez, j'y vais.
Mais quand on entend des rumeurs, voilà, sur les uns, sur les autres,
des rumeurs.
Voilà, en fait, ce que dit Laura Vartou-Martinez dans les GG, c'est grosso modo, quand tu entends une rumeur, bah, tu dois aller en parler en disant attention, j'ai entendu que etc. Ou alors au contraire, bah, se taire et puis après dire ah bah c'est vrai que peut-être qu'on savait en fait.
Bah, en fait, je comprends ce que veut dire Laura quand elle parle de ceux qui aujourd'hui se mettent en avant dans les médias.
Ouais.
En disant, tout le monde savait, on savait, etc. Ça, j'aime pas trop. Après, il y a un truc qui s'appelle la diffamation. C'est-à-dire que tu ne peux pas accuser comme ça quelqu'un sans preuve. Voilà. Après, les conseils qui se donnent. Alors moi, je connais pas bien le milieu du cinéma, mais je connais un peu le milieu de la littérature. Les attachés de presse sont en général des femmes. Et moi, des copines d'attachés de presse m'ont dit, on sait que tel et tel auteur, faut jamais se retrouver dans un ascenseur avec lui.
Ben c'est un problème, ça, quand même.
Mais c'est un vrai problème. Et il y a des trucs.
Alors, qu'est-ce qu'on fait? On laisse continuer. Et pas de chance pour la nana qui, elle, se retrouve seule dans l'ascenseur.
Il faut se donner des trucs. Moi, des copines, naturellement, on dit un tel, on sait qu'il faut faire attention, quoi. Et ça se transmet entre maisons d'édition, entre professionnels.
D'accord.
Mais comme a priori, certaines personnes qui parlent aujourd'hui.
Et madame tout le monde, qui n'est pas écrivain et qui n'a pas la chance d'être informée. Donc elle, en fait, elle risque de se faire violer, harceler, agresser parce que personne n'a parlé.
Mec limite, quoi. On sait que.
Enfin, quand tu commences à dire mec limite, c'est qu'il y a un problème.
Je suis d'accord avec toi, mais à quel moment une attachée de presse va dire j'ai entendu dire de tels trucs, je vais pas, enfin c'est compliqué.
Oui, mais ça veut dire qu'en fait on ne protège pas les femmes.
Mais non, mais Estelle, je suis d'accord avec toi, c'est un
Estelle,
vrai problème.
C'est pour ça que collectivement nous devons encourager les femmes à parler et à saisir la justice et à porter plainte, parce que si Flavie Flament a mis autant de temps à porter plainte, c'est aussi qu'elle s'est dit à quoi bon. En fait, je vais porter plainte, on va me traiter de menteuse. Bah d'ailleurs, c'est ce qui arrive aujourd'hui. Hein.
Ah bah oui, c'est,
on va
c'est,
me traiter
c'est
de
ignoble,
menteuse.
Hein. C'est alors ignoble, là,
elle a attendu 30 ans, mais si elle a attendu 30 ans, c'est que ça a été une réflexion peut-être quotidienne qu'elle a pensé tous les jours. Elle s'est dit mais comment je peux faire? Qu'est-ce que je vais faire?
En fait, elle a eu un flash. Elle n'était pas très sûre. C'est ce qu'elle dit. Elle dit elle s'est réveillée et quand lui. Lui fait une petite réflexion à l'oreille, et elle se dit mais c'est pas vrai, et donc tout d'un coup elle prend conscience en fait de ce qu'elle a vécu, et ça aide énormément de femmes aujourd'hui à
confiance.
C'est-à-dire que face à des trucs très graves qui sont arrivés dans l'enfance ou la jeunesse, parfois pour survivre la mémoire enferme, congèle cela. Et ça peut revenir des années plus tard.
Et c'est pour ça qu'il y a des femmes qui portent plainte plus tard.
Voilà. Et c'est pourquoi la question de la prescription est
pour les mineurs,
une donnée majeure aujourd'hui. Quoi.
Mais évidemment, il faut aussi que les mères des jeunes gamines très jolies qui se lancent dans le mannequinat soient un peu vigilantes.
Bah, et les pères aussi. Hein. C'est pas que les gamines très jolies, c'est les gamines tout court en fait. Enfin, c'est
non,
et pas
dans
que le
ce monde. Non, mais dans ce monde.
Et les pères aussi, mon Jaco.
Les
pères aussi doivent être vigilants, et puis les violeurs doivent ne pas violer aussi.
Commençons
par ça, et du coup,
c'est pas à nous de faire attention, c'est à vous de ranger vos gags. Hein. Désolé.
Mais
c'est à vous les hommes de façon empirique.
Tu n'as rien demandé à personne. Le pauvre, il est en train de prendre pour tout le monde.
Frappez Jacques.
Parfaitement rangé Jacques.
Les GG ce matin sur RMC. 710 millions d'euros d'aide carburant. L'État en fait-il assez alors que les prix à la pompe se maintiennent autour de 2 euros? Le gouvernement annonce une amplification des aides pour les grands rouleurs, les agriculteurs, les aides à domicile ou encore le secteur du BTP. Et pour Abel Boyer, l'éducateur des GG, il faut baisser les taxes sur les carburants.
pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas faire confiance aux Français? En fait, c'est là, philosophiquement, le problème. Ils ne nous font pas confiance pour consommer. Moi, je le répète, si demain mon essence coûte 1,60€ ou 1,70€, aujourd'hui, je le paye 2,30€. La différence, je vais l'injecter dans l'économie française. On le répète tout le temps. Mais on veut consommer. On veut kiffer la vie. On veut pouvoir aller au restaurant.
Mais il a raison.
Mais le Français lambda, il veut quoi? Il veut son logement. Il veut quoi? Il veut, une fois qu'il a payé toutes ses charges, il veut aller au resto, il veut aller au cinéma. On veut être nous-mêmes les acteurs de l'économie française. Mais ils veulent pas. Après, ils nous disent, oh, arrêtez de nous considérer comme un État nounou. Mais ils ont un intérêt à nous maintenir comme ça.
Est-ce que vous êtes d'accord avec Abel Boyi, Jacques Le Gros? Est-ce qu'il faut baisser les taxes ou finalement, c'est bien ce qu'a fait le gouvernement hier?
Baisser les taxes, tout le monde sait que ce n'est pas la solution.
Non, ça n'a pas marché en Italie.
Bah oui. Tout le monde le sait. Alors, trouvons autre chose. Moi, je ne suis pas au gouvernement. Donc, des solutions...
Mais vous trouvez ça plutôt équitable, ce qui s'est passé hier, 710 millions d'euros de
ça veut rien dire
d'aide,
pour moi.
En fait.
J'en sais rien. Ça dépend à qui c'est distribué, combien, comment, quand, pour combien de temps, à quoi ça correspond par rapport à un professionnel qui dépense autant par semaine, par jour, j'en sais rien, de carburant et tout. Je n'en sais rien.
D'accord.
Je n'en sais rien du tout.
Ok. Mais c'est vrai qu'on nage un peu dans le flou, on va dire, Fred Hermel.
Oui, et j'ai de plus en plus ce sentiment que les gens n'attendent plus grand-chose de l'État, en fait.
Bah, ils ont raison.
Et parce que vraiment, enfin, il y a 20 ans, ça aurait été plus. Mais là, aujourd'hui, ils disent de toute façon, l'État plus de sous, donc.
Oui, mais attention.
Les gens.
Sébastien Lecornu.
Dans ce cas, ils vont rien faire.
Il fait un petit peu avec ce qu'il a, ou plutôt avec ce qu'il a pas.
Oui, mais sa stratégie, c'est, dit-il, de parfaire les conneries de ses prédécesseurs.
Oui, bien sûr.
C'est-à-dire que, pourra annoncer et dire, allez, quoi qu'il en coûte,
il était au gouvernement.
Et puis, dans 2 ans, on dirait, ah ben, on est passé de 3 000 à 5 000 milliards de dettes. Mais comment ça a pu se passer? Et on serait les premiers à dire, oh là là, c'est pas bien. Qui aujourd'hui dit merci à Bruno Le Maire?
Personne.
Alors que Bruno Le Maire, il a fait exactement ça, des boucliers tarifaires sur l'énergie, etc.
Oui, et aujourd'hui, il dit, on m'a forcé, donc bon, pardon.
Lui-même n'assume plus aujourd'hui.
Mais
donc, Sébastien Lecornu, s'il baissait aujourd'hui les taxes de 50 centimes, on applaudirait pendant 2 jours, mais dans 2 ans, on dirait, Sébastien Lecornu a ruiné la France,
c'est exactement
à cause de lui, etc.
Il fait ce qu'il peut, il fait ce qu'il
peut. Il pense à l'avenir de la France, et peut-être un peu au sien aussi.
Enfin, en l'occurrence, personne n'est content. C'est-à-dire que même ceux qui bénéficient des aides ne sont pas contents, ceux qui n'ont pas d'aide, ils ne sont pas contents parce qu'ils n'ont pas d'aide. Et donc en fait, ça ne satisfait personne. Voilà, c'est demi-mesure.
Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un Premier ministre aussi longtemps.
Oui, c'est vrai, vous avez raison. Oui, voilà, et il risque de tenir encore,
quelques jours.
Quelques mois. Allez, il va venir sur la présidentielle.
On va reparler du budget, puis là, ce sera une autre paire de manches.
Apolline Matin, ce matin sur AMC, faut-il diffuser le film L'Abandon dans les collèges et les lycées? On en a déjà beaucoup parlé dans Estelle Midi, mais depuis quelques jours, des voix s'élèvent pour que ce film sur les derniers jours de Samuel Paty soit diffusé dans les salles de classe. Le ministre de l'Éducation nationale est quant à lui un peu plus mesuré. Écoutez, Édouard Geffray, il était l'invité d'Apolline de Malherbe ce matin.
Moi, je pense que le film L'Abandon, d'abord, je l'ai vu. Et je pense que c'est un film qui est objectivement d'intérêt public pour les Français. Y compris parce que je trouve qu'il est en fait dans un ton assez juste. Il relate les faits de manière très linéaire, très à plat. Il pointe pas tel ou tel. Il relate les faits. Je suis pas partisan de l'obligation. C'est-à-dire que je crois pas qu'il faille obliger les professeurs à aller le voir ni les élèves. Moi, j'ai croisé des professeurs qui avaient envie de le voir, d'autres qui m'ont dit je serais pas capable de le voir. Je vais pas forcer qui que ce soit à y aller. Mais que collectivement on se dise, compte tenu une fois encore de l'impact que ça a eu collectif dans notre société. Que c'est utile d'y aller, ça je crois que oui, effectivement.
Alors, faut-il diffuser le film L'Abandon dans les collèges et les lycées? C'est un peu le débat de la semaine, Fred Hermel.
Oui, alors bien entendu, je ne l'ai pas encore vu, mais j'allais le voir, évidemment. Oui. J'ai trouvé absolument admirable notre ami Benjamin Amar l'autre jour.
Oui, sur le plateau de l'Estelle Midi.
Il était, mais...
Qui parlait en tant que prof d'histoire géo.
Voilà, lui, il allait faire, quoi.
Exactement.
Voilà, et qu'il allait expliquer, et que moi, je l'ai trouvé d'une... C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, mais je l'aime encore plus après l'avoir vu, parce que il était très ému, il était très très convaincant, très sûr de lui. C'est un hussard de la République, lui. Hein. C'est un vrai prof, hein, comme on les aime. Donc oui, à un moment, on pourrait parler de liberté pédagogique, mais à un moment, il y a des programmes. Il y a des programmes qui sont obligatoires. Tout n'est pas la liberté dans l'éducation. Moi, je pense que oui, il faudrait obliger à essayer des projections dans les collèges, quoi. Voilà, c'est tout.
Oui, alors, sauf que moi, j'ai juste un petit peu. Moi, je suis totalement pour et je suis sortie de ce film totalement dévastée. Là, Vous êtes quatre autour de moi, autour de la table, il n'y en a pas un qui a vu le film. Et quand on en a parlé à la poche, je vous ai dit, vous allez aller le voir, et tous m'ont dit, non, j'ai peur d'être trop plombé, j'ai peur de machin.
Ah non, donc, moi,
en fait,
ah non,
mais,
moi,
dit ça. Oui, mais.
Non, mais moi, je l'ai dit.
Voilà. Ouais. Et donc, en fait, Jacques Legros, aujourd'hui, je veux dire, voilà, Jacques, il a du caractère, il a une grande carrière, et en fait, donc, Jacques, il dit, je sais pas si je suis capable d'aller voir ce film, et on demanderait à des mômes de 12, 13 ans de le regarder, ben, ça pose quand même question.
Mais je me suis fait gronder par Estelle, et donc,
oui, mais je peux pas gronder tous les élèves de France.
Non, mais tu as entièrement raison, hein. C'est un manque de courage de ma part, tout simplement. Et du coup, j'ai une obligation citoyenne, et si ce n'est aujourd'hui professionnelle, d'aller le voir.
Mais bien sûr.
Donc j'irai le voir.
Mais juste, il y a deux choses. D'abord, le ministre disait, attention, tous les profs ne sont pas encore prêts.
Exactement.
D'un point de vue émotionnel, etc., il y a des profs qui sont pas prêts aujourd'hui, parce que c'est encore relativement récent, à le voir, et encore moins qu'ils se sentent capables aujourd'hui de... Parce que ce n'est pas juste le diffuser, hein, quand on le diffuse dans une classe, ça veut dire ensuite expliquer, en débattre, etc.
Il y a quelques minutes, tout n'est pas bien.
Voilà, exactement. Et de se mettre dans cet état émotionnel avec les élèves, certains ne se sentent pas prêts. Et puis par ailleurs... C'est en France, un ministre n'a pas le droit de dire j'oblige les élèves à regarder ça.
Non, bien sûr.
Il y a des conseils qui font les programmes, etc. Il y a une forme de démocratie, mais heureusement, parce que ce serait très dangereux qu'un ministre ait le droit de dire je veux qu'il se passe ça dès demain dans les classes.
Oui.
C'est pas le modèle.
Il peut mettre le film à disposition en fait, des professeurs.
Il faut le faciliter.
Moi, j'espère.
Élise Goldfarb.
J'espère. Et d'ailleurs, moi, ce que je t'ai dit, Estelle, c'est que on y va. Je vais le voir ce week-end. C'est ma première activité de ce week-end. J'y vais avec tous mes copains. On a envie de le voir, on a envie que ce film ait des entrées au cinéma. Et c'est primordial que les gens le voient à l'école. Je comprends que les profs, émotionnellement, ce soit dur pour eux. Mais la portée pédagogique d'un film comme ça, elle est au-delà de capital. Il faut que les gens, il faut que les élèves, il faut que les citoyens se rendent compte jusqu'où peut aller l'obscurantisme religieux. Parce qu'on a lutté tellement longtemps dans ce pays contre l'obscurantisme qu'on ne peut pas aujourd'hui cautionner qu'un professeur se fasse décapiter au nom de la religion. Ou du blasphème, d'ailleurs, qui sont des lois que je chéris chaque jour, car je viens d'un milieu religieux. Et je viens d'un milieu religieux, moi, où encore le blasphème, aujourd'hui, on me le reproche. Et il n'est même pas question de blasphème, en fait. Il a montré des caricatures, je veux dire. C'est un besoin capital pour notre pays. Donc, ce film est d'utilité publique. J'espère que tous les rectorats vont... Le faire rentrer dans la norme de allez venez on regarde ça, on montre ça à nos élèves, comme on a pu me montrer moi la liste de Schindler, American History X. On m'a montré des films très durs quand j'étais au lycée.
Nuit brouillard par exemple.
Exactement.
Moi, on était au collège, on a vu des films.
Ouais, mais enfin, moi très, je me souviens d'avoir pleuré pendant des heures derrière.
Mais c'est bien.
Quand
moi on m'a montré des films sur la pédophilie quand j'étais au lycée pour me prévenir, pour me dire American History X, qui est un film américain assez culte. American
Beauty, ça n'a rien à voir. Oui.
J'ai vu American History X aussi, qui était horrible.
Ça n'a rien à voir.
En cours d'anglais, American Beauty, qui sont des films qui sensibilisent les jeunes à des situations qu'ils pourraient vivre et qui ne doivent pas reproduire. Et ça nous choque assez. Pour qu'on se dise
plus jamais. Mais Véronique sur WhatsApp nous dit, moi je suis prof, je suis enseignante et je ne veux pas aller voir ce film pour l'instant. Trop douloureux.
Je comprends.
Pas d'obligation, s'il vous plaît. Je ne me sens pas encore capable de le traiter en classe.
Et pardon, moi quand je suis allée le voir, tout le monde pleurait dans la salle et je peux imaginer, et je ne suis pas prof, je peux imaginer en fait la détresse émotionnelle des profs en voyant ça. Les profs n'ont pas forcément envie d'être vus en train de pleurer devant leurs élèves. Et je pense que ça peut être, et c'est peut-être le frein à ça. C'est que et émotionnellement, je veux dire, on ne ressort pas de ce film indemne. C'est absolument impossible. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi peut-être cette fragilité. On n'a pas forcément envie, quand on est prof, de montrer une certaine fragilité vis-à-vis des élèves. En tout cas, ça va continuer à faire débat, certainement, cette question sur le film L'Abandon, qui est encore en salle, évidemment, au cinéma. Le Morning RMC, comment bien réussir son vide-grenier? C'est un peu le week-end des vide-greniers et des brocantes, là. Là, vous êtes peut-être prévu, justement, de profiter de ce week-end de Pentecôte pour faire le tri dans votre maison et vous faire aussi un petit peu d'argent. Et Géraldine Demory nous donne justement ses conseils pour bien réussir une brocante.
En ce moment, ce qui se vend le mieux, ça va être tout ce qui est vêtements de marque. Ça, ça part, mais vraiment très, très vite. Vous avez aussi tout ce qui est jouets vintage, type Lego, Playmobil, les Barbie des années 80, 90, les consoles de jeux rétro.
Il faut qu'il y ait encore la tête et les deux jambes.
Oui, il faut que ce soit en bon état. Mais alors, justement, attention, parce que si vous avez ce genre de jouets en bon état, renseignez-vous, parce que il y a certains jouets qui peuvent se vendre vraiment très cher, donc ce serait quand même dommage de les brader. Un peu plus étonnant, mais la vaisselle est aussi très recherchée en ce moment. Alors, en particulier, la vaisselle, la porcelaine de marque. Alors, pour maximiser vos chances, présentez bien vos articles, bien sûr, et puis mettez le prix. S'il n'y a pas de prix, généralement, les gens ne s'arrêtent pas. Et même si oui, on sait, la négo, ça fait partie du jeu, mais soyez pas trop gourmand, parce que si le prix de départ est trop élevé, bah là, c'est pareil, ça risque de faire fuir les acheteurs potentiels.
Qui aime les brocantes autour de cette table, Fred Hermel?
Moi, bien sûr.
Ah ouais.
Bien sûr.
Vous achetez quoi en brocante?
Parfois des vieux livres. Je vois que là, il y a des postes de radio et tout ça. Je, en image pour ceux qui l'ont regardé à la télé, si je vois un jour je vois un vieux poste de radio, j'aime beaucoup les lampes, donc ça m'est arrivé une fois de dans une brocante un petit peu chic, mais c'était une lampe de mineur, une lampe de mineur qui avait été très bien rénovée et qui avait été mise comme une lampe et tout ça, donc j'aime bien ce genre de choses. Oui, j'aime bien l'atmosphère et tout ça, puis après tu rêves toujours de tomber sur un Picasso inconnu.
Et d'être le seul à l'avoir repéré,
mais voilà, c'est pour ça. Non mais à chaque fois je me dis peut-être que j'ai tombé sur un truc.
J'adore aller en brocante. Ouais. Et marchander, bien sûr.
C'est surtout ça, toi.
Ah bah oui. Non, mais j'ai acheté plein de trucs.
Oui, j'adore.
Une vieille balance de cuisine. Et, une
exactement,
lampe,
parce qu'il y a des gens qui.
Et des bouquins à 1 euro. Voilà.
Exactement.
Mais j'ai payé 1 euro. Ouais. C'est comme
non,
ça.
Non,
c'est,
non. Voilà. Mais de vieux objets comme ça. Et surtout sur les assiettes. Décoré et tout ça de grand-mère, quoi. J'adore ça.
Les assiettes années 60 avec les petites fleurs oranges, c'est mon rêve. Élise Goldfarb.
Moi, j'adore y aller pour trouver des trucs vintage. Et surtout, ce que j'achète, c'est des anciennes consoles. Genre la Game Boy Color. Je me suis acheté un Nokia 3310. Je me suis dit.
Acheter la Switch 2, il y a tous les jeux des anciennes consoles.
Oui, je vais aussi l'acheter. Mais ce que j'aime, c'est avoir des objets vintage de collection chez moi. Par contre, ce que je supporte pas, c'est être la brocanteuse. Parce que je l'ai déjà fait. Mais les gens sont des gros crevards.
Mais
je vends des trucs trop stylés. Je le mets.
Genre ce suite, par exemple.
Iconique, excuse-moi, Dragon Ball Z.
J'ai eu plusieurs messages pour féliciter Elise de gens qui nous regardent.
Et oui, bien sûr.
J'ai acheté en fripe.
Non, mais c'est vrai.
J'ai acheté en fripe, d'ailleurs. C'était limite une brocante. Non, mais les gens, ils vont te négocier des 50 centimes. Ça va, frérot? Tu peux mettre 50 centimes?
Non, le pouvoir d'achat, Elise.
Ah, ça me saoule. Du coup, moi, en tant que meuf qui vend des trucs, je vends sur Vinted.
Oui, ou les gens marchandent aussi.
Ouais, mais je laisse
pas. Est-ce que vous pouvez porter cette chemise, machin?
Je réponds juste, non, dégage. Alors que dans la vraie vie. Dans la vraie vie, j'aurais envie de les. Dans la vraie vie, j'aurais envie de les monter en l'air.
Jacques Legros, vous faites. Jacques Legros, vous pouvez pas faire les brocantes, vous.
Crevards, geg.
C'est Élise, hein.
J'ai enrichi mon vocabulaire.
Bien sûr,
j'ai écrit
de manière.
J'en ai fait des petites, pas des brocantes.
Mais vous vendez?
Oui, voilà. Quand les enfants étaient petits, ils se faisaient un peu d'argent.
Mais vous vendiez vous-même? C'est-à-dire qu'on disait, il y a Jacques Legros, il est en train de vendre le t-shirt de ses gosses.
Il n'y avait pas les réseaux à l'époque, c'est bien.
Il y a Jacques Legros qui vend la vaisselle.
Ouais. Il vend son argenterie.
Il vend les micros de TF1.
Mais vous achetez en brocante, Jacques?
Alors, une époque, oui, j'aimais bien les belles brocantes, comme ici à Paris, à Saint-Quentin. Quand je cherchais un meuble, oui, les puces. Quand je cherchais un meuble, par exemple, ou un objet
très cher,
de décoration.
Oui, bien sûr. Oui, enfin, ça s'appelle un antiquaire, Jacques. Ça n'a rien à voir.
Il y a un peu les deux. Quoi.
J'ai acheté un meuble à 8000 euros. C'est en plus de Saint-Ouen.
Il m'a fait baisser de 50 centimes.
Ils offrent la livraison. Ouais. Ah oui, oui.
Ouais. C'est moins des crevards là-bas chez les antiquaires.
Quel est le sujet suivant?
Eh bien, écoutez, le sujet suivant, et vous allez y être sensible, Jacques, c'est la chaleur. Voilà. Il va faire 35 degrés ce week-end. Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que ça vous réjouit? Écoutez, on va parler météo dans un instant dans Estelle Midi. À tout de suite.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Il est 13h31, vous êtes dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Qu'est-ce qu'il y a, Charles Magnier?
Un message qui va vous faire plaisir, celui de Philippe qui nous dit « Ça fait des années que j'écoute Estelle Midi à la radio et aujourd'hui, pour la première fois, je vous regarde à la télé. » C'est assez marrant de poser un visage sur ces voix. et je vous trouve tous superbes. Voilà.
Oh, oh là là.
D'arriver à l'instant, là.
J'avais dit à ma mère de nous écrire, finalement, elle l'a fait.
Sous son fameux pseudo, Philippe.
Oui, c'est ça. C'est son pseudo préféré. En tout cas, merci à Philippe.
Bon, il y a aussi un message de Bernard qui dit qu'il faut absolument que Fred Hermel déboutonne son col. On dirait trop Jean-Pierre Coff.
Mais ça, c'est vrai. Vous pouvez plus porter cette chemise kaki, là. Ça ne vous va pas. Moi, j'aime bien.
Alors, j'ai l'air conditionné en plein dans la tronche.
Oui.
Et j'ai froid. Et j'ai besoin de ma voix pour applaudir et crier à l'élan ce soir.
Oui.
Donc je protège mon petit cou.
Mais le col est beaucoup trop grand. Regardez-le sur RMC Story et donnez-nous votre avis.
Il est beau comme tout.
Il est beau, mais le col est trop large. On ne fait plus ça maintenant. Voilà.
Justement, c'est équipe Aven Extravaganti. C'est spécial. Ouais. C'est une marque italienne exclusive.
Ah, oui, oui.
C'est très chic, madame.
Mais ils font ça pas revient, tout bien, les Italiens. Regardez, ils ne sont même pas qualifiés pour la Coupe du Monde. On est également avec Élise Goldfarb et Jacques Legros. Et on va tout de suite s'intéresser aux chiffres du jour. Alors, normalement, il y avait une petite musique, mais donc elle ne vient pas. Ce chiffre du jour, c'est 35 degrés. C'est la température maximale attendue dans le sud-ouest ce week-end. Plus globalement, il fera chaud partout en France. Et si nous sommes nombreux à être heureux de pouvoir sortir les barbecues et les petites robes d'été, eh bien, ces températures extrêmes interrogent alors que nous ne sommes qu'en mai, Charles.
Oui, on pourrait connaître ces prochains jours la journée la plus chaude jamais enregistrée pour un mois de mai à l'échelle de la France. Voilà ce que dit Christelle Robert, qui est prévisionniste à Météo France. Le phénomène, c'est explique par une masse d'air très chaud qui remonte progressivement du Maroc via la péninsule ibérique et qui va stagner pendant plusieurs jours sur l'Hexagone. Épisode de forte chaleur qui va durer toute la semaine prochaine selon les prévisions. Un pic est attendu entre lundi et mercredi prochain. Pour le climatologue David Faranda, je cite, il n'y a aucun doute sur le lien avec le changement climatique. Météo France souligne que ces épisodes de chaleur très précoces dans la saison sont appelés à devenir plus fréquents justement à cause du changement climatique, mais aussi plus intenses et plus durables dans les années à venir. Bref, ce n'est que le début.
Voilà, et dites-nous quelle température il fait chez vous, si vous avez déjà commencé à vous retrancher dans le salon en fermant les volets. On vous attend évidemment au 32-16, jusqu'à 35 degrés ce week-end. Est-ce que c'est inquiétant ou est-ce que c'est réjouissant? Élise Goldfarb, est-ce que vous dites, je vais faire un barbecue, ou est-ce que vous dites, mais c'est un truc de fou, on est en mai, quoi.
Mais qui peut se réjouir de 35 degrés? 35 degrés, c'est que tu sors de chez toi, t'es trempé, hein. C'est pas du tout un kiff. C'est Dubaï. Et à Dubaï, ils vivent dans des centres commerciaux avec la clim. Donc déjà, en termes de kiff, c'est un grand nom. Enfin, je veux dire, c'est pas un kiff. C'est un kiff quand il fait 28, à la limite. 35, tu peux pas sortir de chez toi, tu pues la transe, t'es dégoulinant, personne n'est sexe. Donc bref, déjà ça c'est nul.
Jacques s'accroche, mais il suit jusqu'ici, je crois.
Non mais on propose plus.
Donc transe, c'est transpiration, et sexe, c'est sexy, ouais. Je crois.
Là, chaud.
Voilà, pendant Jacques les pubs, a sorti son cahier de mots.
Je fais le lexique à Jacques pendant les pauses pubs. Mais surtout, qu'est-ce que ça dit, c'est qu'on arrive quand même à un niveau grave.
Ben oui.
Il y a 10 ans, ça n'arrivait jamais, 35 degrés au mois de mai.
C'est la première fois que ça arrive.
Il faut qu'on s'inquiète, il faut qu'on s'inquiète. Et j'ai envie de trouver des arguments pour les gens qui s'en foutent du réchauffement climatique. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent, qui s'en foutent. Et d'ailleurs, moi j'en connais énormément. C'est que nos chiens, on va plus pouvoir les promener. Parce que le goudron sera tellement chaud qu'on va leur brûler les pattes.
Ouais,
c'est que les routes vont fondre, donc nous on pourra plus conduire, tout simplement. C'est que les trains vont dérailler parce que les rails sont bouillants. En fait, ça va mettre notre vie en suspens. La vie va coûter beaucoup plus cher. Vous savez combien ça coûte une clim en facture d'électricité? Mais on va dépenser plus d'argent. On va devoir ajouter des taxes, sûrement, parce qu'on connaît notre pays déjà, on adore les taxes. Et en plus, on va se mettre des taxes à la chaleur. On va devoir mettre les congés climatiques. Enfin, je veux dire, c'est
obligé, ça.
Que des mauvaises nouvelles, en fait, pour notre porte-monnaie et pour notre santé. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, j'en ai marre de culpabiliser le peuple. Il faut que notre gouvernement avec nos entreprises se bouge le derche.
Désolée de dire comme ça. Qu'est-ce qu'on fait en fait?
Eh ben qu'est-ce qu'on fait? Déjà, on dégoudronne aussi nos villes. On remet des arbres. Attendez, moi j'habite dans le 9e arrondissement, il y a pas un parc. Tu trouves ça normal?
Non.
Il y a pas d'arbres en fait. Je n'ai pas d'arbres dans mon quartier. On arrête d'importer de Chine des Chines et des Temu qui sont des usines à merde. Voilà.
Ça, tout le monde est d'accord avec toi en fait.
Merci. Bah, est-ce que l'État peut faire quelque chose?
Bah, je sais pas.
On commence.
Pardon, excuse-moi, mais tu viens de voter dans le municipal?
Bah oui, ouais, j'ai voté. J'ai voté bien, selon moi.
Bah écoute, très bien. Bah,
alors, voilà, pour les arbres.
J'ai voté en ce sens.
Ouais. D'accord.
Et parce que ceux qui sont au pouvoir depuis longtemps, qui parlent des arbres, ils ont pas mis des arbres.
Hein. Et Anne Hidalgo, c'est la seule qui a végétalisé mon quartier depuis, je peux te dire, des années. Donc voilà, donc il faut trouver des solutions. Il faut que l'État se bouge, qu'on arrête tous les trucs qu'on dénonce toute la journée dans cette émission.
Est-ce qu'on peut quand même juste se réjouir? Alors s'inquiéter.
Tu m'aurais dit.
Mais quand même se réjouir en se disant, attends, on a eu un hiver pourri. On a eu un mois de mai, les derniers ponts pourris. Et là, se dire juste bon. Alors 35 degrés, je suis d'accord avec toi. c'est extrême. C'est mais clair. Se dire le soleil revient et on sait qu'on est tous un peu plus heureux en ce moment, le climat politique, tout est anxiogène et tu vois un petit rayon de soleil, attention, c'est 35 degrés, c'est trop. OK. Si. Mais se dire waouh, allez, un peu de soleil, bon, on se réjouit samedi et puis on commencera à s'inquiéter dimanche quoi, grosso modo.
Ah oui. Bah oui.
Mais c'est pas comme
28 degrés. La semaine dernière, j'ai remis le chauffage de nuit de soir, de soir de suite pendant les saints de glace.
Ah bah oui. Ça arrive chaque mois de mai.
Oui, il faisait très froid. Donc oui, je vais pas dire que je suis pas content d'avoir un peu de chaleur ce week-end. Mais je comprends tout ce que tu dis, ma chère Edise. Mais le problème, c'est que ce discours anxiogène a l'effet inverse.
Je comprends. Moi, je crois pas.
Moi, je pense que la fin du monde que tu nous préviens, ou en tout cas la fin d'un monde, je pense que beaucoup de gens pensent que c'est exagéré, et donc ils n'y croient pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc je dis pas que t'as pas raison, hein. Je dis pas que t'as pas raison, hein. Notamment sur les trains, sur les voies, ça c'est, il s'est passé en Espagne et c'est aussi une question
De surchauffe
et puis aussi d'entretien des
voies. J'ai eu cette conversation avec Bruno Poncet, le cheminot des GG, qui me disait, si t'es dans le sud, si t'es dans le sud cet été, bah, déjà, attends-toi à ce qu'il y ait des retards à tous les trains. Pourquoi? Parce qu'effectivement, les rails, en fait, se dilatent parce que ça chauffe. Et donc, il y a énormément de retards. Et après, on est les premiers à dire, ouais, deux heures de retard, machin. Et pourquoi est-ce qu'on entend autant de trucs ils ont passé la nuit dans le train et tout? Bah, parce que c'est aussi les conséquences de la chaleur. Mais moi, je trouve que le discours d'Élise, il est génial. Parce que souvent on dit faut s'inquiéter. Ah bon, pourquoi faut s'inquiéter?
Ah non, il est
et là
précis.
Élise, elle te dit, tous ceux qui ont des animaux, quand elle te dit leurs pattes vont brûler sur le goudron, on est les premiers à se dire dès qu'il fait chaud, on peut pas mettre les pieds sur le sable. Et on pense pas à toutes ces choses-là. Et donc je trouve que son discours il est hyper cohérent et il est clair en fait.
Il est clair, il est très bien, mais il peut faire peur à beaucoup
de gens. Merci mes amours.
Bah oui, mais vraiment, mais il faut peut-être faire des choses.
Mais le truc c'est que ça fait peur, c'est une réalité.
Je crois dans le génie humain. Je pense que on s'adapte depuis quelques millions d'années.
Enfin non, on ne pourra plus s'adapter.
Donc si, je pense qu'on va réussir à s'adapter. Voilà, moi je crois en la science. Je crois au progrès, je crois en la science.
Bah, aujourd'hui, la science, elle nous dit qu'on est quand même mal barré.
Oui, mais je crois qu'on va réussir à trouver des solutions.
Et tiens, on parlera solution avec Géraldine Demory dans un instant. Géraldine Demory, c'est la Madame Météo des RMC. Et elle nous parlera justement de ces températures extrêmes. Jacques Legros.
Moi, ce qui m'inquiète, c'est la violence des phénomènes. La semaine dernière, il faisait très froid. Là, il fait trop chaud.
Ouais, 15 degrés en deux jours.
Et on pourrait avoir une petite amplitude comme ça qui correspond à la saison. Là, non. On passe de l'hiver à l'été très chaud. Et puis, on va retomber en hiver. Et puis, il y aura une tempête, un orage violent, de la grêle, comme des boules de billard, etc. Et c'est cette violence-là à laquelle il faut s'attendre. C'est-à-dire des événements qui vont nous détruire par endroit, et ça me fait très peur.
Et puis attendez, quand on dit, oh là là, on a eu un hiver rude, mais en fait, que dalle.
Non.
C'est-à-dire que il y a 20 ans, on avait des hivers bien plus difficiles que ça. Et si on a mis une doudoune, 6 fois cet hiver, c'est le bout du monde. Avant, c'était 45 fois. Donc, en fait, le problème, c'est qu'on s'habitue aux choses, malheureusement. Et justement, Géraldine Demory est notre invitée sur ce débat, journaliste météo, chef du service météo environnement d'RMC. Bonjour Géraldine.
Bonjour Estelle, bonjour toute l'équipe.
Géraldine, on dit de température extrême. Évidemment, on a eu beaucoup plus que 35 degrés en France, mais on est qu'au mois de mai. C'est-à-dire que ça n'avait jamais eu lieu, ça?
Non, là on est vraiment sur un épisode hors norme, c'est ce qu'il faut bien comprendre. Je discutais justement avec les prévisionnistes de Météo France et ils se demandaient si on n'allait pas passer certains départements en vigilance jaune canicule. Mais avec un petit problème technique, c'est que cette vigilance, elle est prévue pour être déclenchée, elle n'est pas prévue pour être déclenchée avant le 15 juin.
Donc, ah oui, d'accord.
C'est pour vous dire à quel point c'est quelque chose d'extrêmement précoce. Jamais vu, oui, lundi, on attend un indicateur thermique de 24 degrés, c'est-à-dire c'est la moyenne des températures mini et maxi sur tout le pays. Mm-hmm. Ça voudrait dire qu'on exploserait le record précédent, parce que le record précédent, il était de 22,9 degrés le 28 mai 2017. Donc, on est vraiment sur un épisode qui est totalement hors norme. Alors, c'est vrai que vous parliez qu'on a eu froid il n'y a pas longtemps, mais on n'est pas du tout sur les mêmes proportions. On était sur des températures qui étaient à 5 degrés sous les normales. Là, on parle de températures qui vont être plus de 10 degrés au-dessus des normales.
D'accord.
On n'a eu absolument aucun record de froid. On en était même très, très loin. Alors que là, on va avoir beaucoup de records de froid. Et puis, donc, oui, c'est carrément des records nationaux. Donc, on n'est pas du tout sur les mêmes proportions entre ces deux épisodes.
Géraldine, on parle beaucoup d'intelligence artificielle dans Estelle Midi. Est-ce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, notamment, est capable de nous prédire le temps qu'il va faire dans un mois, dans deux mois, dans un an? Est-ce qu'on peut s'attendre, justement, à ce qu'il y ait plein d'épisodes comme ça, ou est-ce qu'on ne sait pas?
Alors oui, c'est vrai que l'intelligence artificielle, elle aide aux prévisions, ça c'est évident, on arrive à avoir des prévisions de plus en plus précises. Après, sur le long terme, ça reste compliqué. Là, par exemple, pour les prochaines semaines, on a ce qu'on appelle des prévisions qui sont saisonnières, donc on peut voir qu'on va avoir globalement, les prévisions, c'est quelque chose d'un été qui va être chaud, par exemple. Mm-hmm. Après, dire s'il va y avoir des canicules, oui, ça va être propice aux canicules, mais c'est absolument impossible de les prévoir aussi longtemps en avance, on peut absolument pas le dire aujourd'hui. Dans l'avenir, oui, l'intelligence artificielle va nous aider à avoir des prévisions, mais en tout cas, ce qu'on sait avec ou sans l'intelligence artificielle, d'ailleurs, et l'épisode d'aujourd'hui le confirme, c'est qu'on va avoir des vagues de chaleur qui vont être de plus en plus précoces, qui vont être de plus en plus intenses, de plus en plus longues, qui vont concerner de plus en plus de monde. Et ce qu'on sait aussi, c'est que quand il y a beaucoup de chaleur, eh bien, les masses en fait chaudes comportent plus d'humidité. Un degré en plus dans l'air, c'est 7% d'humidité en plus.
Ah, ce qui veut dire qu'on a
Plus de pluie, plus de périodes de sécheresse longues, suivies par ensuite des pluies diluviennes. Et donc, c'est effectivement ce dont parlait Jacques, ces épisodes de pluie intense et de grêle qui peuvent arriver par la suite. C'est exactement ce qui se passe quand on a plus de chaleur. Donc, il ne faut pas juste voir, c'est pour ça qu'on parle de dérèglement climatique, parce que la température, c'est vraiment juste une partie du phénomène. Il y a beaucoup d'autres choses derrière.
Et juste dernière question, Géraldine Nomori, là, Élise Goldfarb, donnait des exemples très précis de ce qui nous attend lorsqu'il y a de trop fortes chaleurs. Est-ce que ça, vous le faites vous aussi dans vos bulletins météo? Est-ce que vous essayez d'alerter la population?
Oui, bien sûr, on essaye parce que c'est extrêmement concret, parce qu'on nous parle beaucoup de liberté quand on nous dit « Oh, foutez-moi la paix, laissez-moi la liberté de conduire ma bagnole qui pollue et tout ça ». Mais ce qu'on comprend, ce qu'on a parfois du mal à comprendre, c'est que cette liberté, on va plus l'avoir justement quand on pourra plus mettre nos enfants à l'école parce qu'il fera trop chaud et que faudra garder les enfants à la maison parce qu'on pourra plus les mettre dans des bâtiments trop chauds. La promenade du chien, effectivement, c'est extrêmement parlant.
Exactement.
On n'y pense pas, mais effectivement, les chiens, les animaux ne sont pas... Ils peuvent pas supporter de telles chaleurs. Donc, on en parle vraiment. C'est ce qu'il faut comprendre quand on nous parle de la liberté, quand on dit, oh là là, arrêtez de nous culpabiliser, il faut voir que les conséquences, elles sont dramatiques, elles sont à notre porte. Alors, oui, ça empêche pas qu'on va profiter de ce week-end. Moi, la première, je vais en profiter de ce week-end. C'est pas incompatible. C'est pas du tout incompatible. Mais il faut garder en tête qu'on ne peut pas vivre dans un monde comme ça et que chaque dixième de degré qu'on arrive à économiser, eh ben, c'est des canicules qu'on va éviter, c'est des milliers de morts qu'on va éviter. Donc, c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir. On n'est pas foutu parce que on va passer la barre des 3 degrés, tout le monde va mourir, ça se passe pas comme ça. Mais il faut vraiment tendre à essayer de limiter au maximum le réchauffement.
Merci beaucoup, en tout cas, Géraldine Nomori, d'avoir été notre invitée. C'était très clair et très intéressant. Merci beaucoup. On termine avec Marie-Vonne. Marie-Vonne, elle a 79 ans et elle nous appelle de La Roche-sur-Yon en Vendée. Bonjour Marie-Vonne.
Bonjour Estelle. Je suis ravie de vous entendre. J'adore votre émission.
Merci Marie-Vonne.
En deux mots, j'ai zappé sur une émission de jeu bien connue pour vous regarder tous les midis.
Ah bah écoutez, super. Merci Marie-Vonne.
Bravo.
Et alors, vous nous regardez avec les volets fermés?
Tous. La petite marrante là qui a des beaux cheveux, elle est adorable.
Là, c'est Élise. Oh. C'est Élise.
Merci beaucoup. Oui.
Elle a quand même un vocabulaire qui prête à.
Oui. Estelle aussi, et les deux autres chroniqueurs aussi. Vraiment, je vous adore.
Bon, bah, écoutez, super. Et voilà, Élise, la chroniqueuse aux beaux cheveux.
La petite marrante aux beaux cheveux, j'adore.
Marie-Vonne, est-ce que vous êtes déjà là, enfermée chez vous, volet fermé, ou est-ce que vous profitez
Moi, à La Roche-sur-Yon, il fait 29 degrés.
Déjà.
Mais ça, c'est mon téléphone. Je ne suis pas sortie à l'extérieur. Mais depuis ce matin, 9h, mes volets sont fermés. Je suis dans un appartement au 3e étage. Il est ancien, il a 50 ans. Mais les murs sont épais, donc ça va. Mais il n'empêche que si je ne ferme pas mes rideaux mes volets complètement, j'ai très chaud dans cet appartement.
D'accord, ouais, donc pour vous, c'est difficilement vivable, hein?
Ah oui, c'est horreur de ce temps-là. Enfin, ma température idéale, c'est 24-25, pas plus.
Ouais, moi aussi j'aime bien. C'est la température de la Bretagne. C'est formidable. Venez nous rejoindre, Marie-Vonne. Merci Marie-Vonne, en tout cas, de votre fidélité. Puis merci beaucoup d'avoir appelé RMC. Vous rappelez quand vous voulez, Marie-Vonne. Et puis bon courage. Voilà pour ces quelques jours de chaleur. Merci beaucoup. On vous a posé la question sur le WhatsApp sur le compte Twitter.
Mais oui.
La chaleur, ça, d'Estelle Midi.
Jusqu'à 35 degrés ce week-end. Est-ce que ça vous réjouit ou est-ce que ça vous inquiète? Ça vous réjouit à 55%. Voilà, c'est serré. Mais c'est aussi réjouissant qu'inquiétant. Ces belles températures. sûr ce week-end.
Évidemment. Allez, c'est le moment de jouer sur RMC.
Mais oui, vous le savez, c'est la liste des 26, les 26 cadeaux pour la Coupe du Monde sur RMC. Ouf. Vous allez pouvoir remporter des chèques de 10 000 euros notamment, mais aussi des vidéos projecteurs, des maillots des Bleus. Vous vous inscrivez tout de suite. Vous envoyez liste par SMS au 7-32-16. Vous avez 5 minutes pour jouer.
Dans un instant, le répondeur de Pierre-Antoine Damcourt. À tout de suite dans Estelle Midi.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.
Et on surveille vos messages en direct, évidemment, sur le WhatsApp de l'émission aussi. Cette question des records de chaleur ce week-end qui vous fait réagir. Julien nous dit « J'étais de très bonne humeur ce matin en voyant ce beau soleil. » Et puis en vous écoutant, bah maintenant j'ai le seum. Ça commence un peu à m'inquiéter. J'ai pris conscience que c'était inquiétant, nous dit Julien. Yann nous dit, pour une fois, et peut-être la première, je suis entièrement d'accord avec Élise. J'ai aussi des photos de tableau de bord, comme Stéphane qui nous dit, voilà, je suis à Tarbes, il m'envoie la photo, il écoute RMC, et il y a écrit 35 degrés sur le tableau de bord. Voilà, j'ai 42 degrés à Toulouse pour Rémi, au thermomètre du camion. Aujourd'hui, Gaëtan qui nous dit, très belle leçon de morale de la part d'Élise, qui prend l'avion toutes les semaines, je le rappelle. Voilà ce que nous dit Gaëtan, vous êtes nombreux, voilà, à pointer, on va le dire comme ça, une forme d'hypocrisie de la part d'Élise. Et puis Jérémy, elle alerte, mais elle alerte en prenant des miles dans l'avion.
Oui, oui, ah, bon,
c'est tout le paradoxe.
C'est une autre forme d'alerte.
On culpabilise les décideurs.
Bon, bah, vous n'hésitez pas à envoyer tous vos commentaires à Élise et puis sur toute l'émission, évidemment, sur le WhatsApp au 06 12 424 424.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
Il est 13h51, vous êtes dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Tout de suite, c'est le répondeur de Pierre-Antoine Damcourt. Les meilleurs messages laissés au 32-16. Et comme on est vendredi, c'est le best-of.
RMC, Estelle Midi.
Le répondeur de Pierre-Antoine Damcourt.
Salut Estelle, c'est Manuel Valls. Bon bah voilà, j'annonce ma candidature pour l'Eurovision l'année prochaine. Voilà, je vais représenter la France et je vais gagner. J'y crois, hein. Et j'ai déjà attaqué les répètes. Je suis pour le communisme, je suis pour le socialisme et pour le capitalisme, parce que je suis opportuniste.
Ouais, vas-y Manu, hein.
Ouais,
oublie pas que t'as aucune chance. Fonce.
Malentendu.
Ça peut.
Oui, Estelle, c'est Louis Sarkozy. Bon, hier, j'ai proposé de supprimer le SMIC chez Apolline. Eh bien là, j'ai une nouvelle idée, c'est de supprimer les pauvres. Voilà, hein. Parce que c'est eux le problème. Plus de pauvres, plus de pauvreté. Eh, vous avez vu, hein, ça bosse, hein, ça tourne là-haut, hein. Pop, pop, pop.
Ah, pop, pop, pop.
Il y a une logique.
Mais pourquoi personne n'y a pensé
avant?
Je
sais pas. Allez, message suivant.
Oui, bonjour ma Estelle, c'est Nicolas. Hein? Écoute, je voulais rebondir sur l'idée fantastique de mon fiston Louis. Supprimer les pauvres, c'est brillant. Hein? Pourquoi j'y ai pas pensé avant? Demain, il retourne chez Apolline et il va faire une autre proposition que je lui ai soufflée. Supprimer les juges. C'est pas une bonne idée ça? Hein? Comme ça, plus de bracelets, plus de prison, plus de problèmes. Allez, je t'embrasse.
Ouais, bah, par contre, si on décide de supprimer les yaourts, il risque de pas manger grand chose ces prochaines années. Hein?
Neymar, oh, c'est fiesta, c'est chaleur dans le cœur, tout convocado à la Copa del Mundo, allez, samba, c'est le sao. Pas la Copa del Mundo.
Il reste une vingtaine de jours, une petite cure.
Et l'anniversaire de sa sœur est passé.
Et le carnaval aussi est passé. Ça va aller. Petite cure de caipirinha. Dans 20 jours, il est sur pied.
Bah écoutez, on l'espère.
Moi, je suis content.
Même aussi. On a envie de voir un grand Neymar.
Même 20 minutes à la fin du match, ça peut être sympa.
Ouais, ou même tout le match.
Même tout le match.
Oui, premier tour. Vu que le premier tour, tout le monde est qualifié. On peut le faire jouer. Allez, message suivant.
Oui, bonjour, Xavier, vétérinaire à Périgueux. J'ai vu les images de ce renard qui a volé 19 boules de pétanque en Dordogne. C'est incroyable. Alors, on a enquêté, et en fait, c'est un renard dyslexique qui voulait voler des poules et pas des boules. Ça me rappelle un autre cas, en 2002, avec un ours qui avait mordu un randonneur au niveau de l'entrejambe, en pensant croquer des nouilles. Extraordinaire, vive les animaux.
Ah là 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 là, on n'en parle pas, c'est la dyslexie dans le monde animalier, c'est terrible.
Allez, message suivant.
Coucou les petits lapins, c'est Françoise, ça va? Bon, ça y est, le soleil arrive, ça va réchauffer les petits cœurs. Vous savez quoi? Moi, je me suis remise au sport pour préparer mon summer body. Et j'ai testé un nouveau truc, la marche suédoise. Oh, c'est génial! Je suis allé à pied jusqu'à chez Bjorn, un nouveau vendeur de chez Ikea. Oh là là, j'ai fini en kit. Allez, bisous les sportifs.
Je le sens bien, le summer body de Françoise.
Ça va être quelque chose.
Ça va être quelque chose. Hein. Elle est toujours pas passée vous voir à Nice, Charles?
Non, c'est un projet.
Parce que c'est notre projet, Charles.
Ça va, Pantin.
transition écologique pour manifester contre l'inaction du gouvernement face au réchauffement climatique. Le cornu, t'es foutu. La Monique est dans la rue. Allez les gars, on va déverser de la peinture sur la porte. Attendez, j'ai un texto du... Ah bah c'est le président Macron. Qu'est-ce que tu fous, Monique? C'est toi la ministre de l'écologie. Oh, première nouvelle. Ah bah merde. Non, oubliez la peinture, j'ai merdé.
Allez, au boulot, Monique, il va faire 36 ce week-end. On n'entend pas parler.
Mais non, on n'entend pas. Monique Barbu, c'est fou. Non,
je pense que même au ministère, ils disent on n'a jamais vu cette
personne. Bah oui, ils ne doivent pas la laisser rentrer.
Vous êtes Monique Barbu? Non, on ne connaît pas. Allez, refaire un badge.
C'est fou, il y a un bug. Il y a un silence.
On va enquêter, Stéphane,
Message suivant.
Oui, bonjour, professeur Dubernet-Pontin, l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Voilà, je viens de voir que monsieur Glucksmann a sorti un livre intitulé « Nous avons encore envie ». Eh bien, il vient de voler le titre de mon livre qui traite sur la gastro-entérite. Espèce de voleur, Glucksmann, je vais t'envoyer mes avocats.
Ah ouais, le livre de Raphaël Glucksmann qu'on a reçu au bureau, et je peux vous dire que le bureau des selles n'est plus bancal.
Le répondeur de Pierre-Antoine Demcon est en pleine discussion avec Jacques Legros, et comme j'ai enlevé mon oreillette évidemment, voilà, je suis un peu prise de court. Bon, le répondeur de Pierre-Antoine Demcon tous les jours 13h50 dans Estelle Midi en podcast rmc.fr, l'appli RMC et toutes les plateformes de téléchargement. Dans un instant on va parler de la Pentecôte. Faut-il remettre tout le monde au travail à la Pentecôte? Eh bien vous pouvez réagir au 3216 et sur le WhatsApp d'Estelle Midi 06 12 424 424.
RMC, midi 15h, Estelle Midi.